L'Évangile est vrai, l'Évangile est beau et l'Évangile est puissant. Vous savez, on parle beaucoup du fait que chaque chrétien doit être un témoin, et c'est une vérité, c'est une réalité. Mais nous serons de bons témoins si nous sommes convaincus que l'Évangile est vrai, que l'Évangile est beau et que l'Évangile est puissant. Et plus nous serons saisis, convaincus, émerveillés par la vérité, par la beauté et par la puissance de l'Évangile, eh bien, plus nous serons de bons témoins. Lorsque nous parlons du témoignage, il faut revenir à la base, parce que finalement, la puissance, c'est pas dans le messager, c'est dans le message. Mais si nous voulons être crédibles en tant que témoins, eh bien, nous devons être convaincus de la vérité, de la beauté et de la puissance de l'Évangile. L'Évangile est vrai. Jean 1, chapitre 1, verset 1, nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. » On voit dans ce passage que l'apôtre Jean a le désir de transmettre quelque chose de vrai. C'est ce qu'il a entendu, c'est ce qu'il a vu, c'est ce que ses mains ont touché qu'il nous transmet. Un autre verset, 2 Pierre chapitre 1 verset 16, qui va dans le même sens. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Encore une fois, on voit que le but des témoins bibliques, ce n'est pas de simplement faire une belle histoire, mais c'est de raconter quelque chose qui s'est vraiment passé. Il a vraiment existé un homme nommé Jésus, qui est véritablement né d'une vierge, qui a authentiquement enseigné le royaume de Dieu, qui a vraiment accompli des miracles. Il est réellement ressuscité d'entre les morts et il reviendra, c'est certain. Tout ceci, c'est la vérité. Ce n'est pas juste un avis sur la question, ce n'est pas une opinion parmi d'autres, ce n'est pas une perception subjective de la réalité. Ce n'est pas une vague croyance, c'est la vérité. Et je pense que lorsque nous disons que nous avons foi, que nous croyons en Jésus-Christ, le mot « croire » quelque part, il est un peu piégé parce qu'il peut avoir plusieurs sens. Souvent, les philosophes opposent la croyance et la connaissance. Mais lorsque nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, c'est pas dans ce sens-là qu'on aurait une croyance qui s'oppose à une connaissance. C'est que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, que nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Nous engageons tout notre être dans une adhésion à Jésus-Christ, de telle sorte que nous devenons unis à Jésus-Christ. C'est ça qu'on met derrière le mot « croire ». C'est pas simplement « oh, j'ai une vague opinion ». Non, c'est « je crois ». C'est, je m'engage, je m'unis à Jésus-Christ, à son œuvre pour moi. Je deviens en lui. Et cette vérité, c'est notre carburant pour témoigner. Je me souviens d'une professeure de catéchisme à l'Institut biblique de Nogent. Elle s'appelle Janet Johnson, vous la connaissez peut-être. Et quand elle était plus jeune aux États-Unis, elle avait l'occasion d'enseigner la foi chrétienne dans une école. Et un jour, le directeur de cette école lui a dit « Ah ben c'est bien que vous enseigniez les enfants avec le christianisme, hein, c'est bien, ça leur fait du bien, ça leur apprend des valeurs. » Et elle de répondre « Je n'enseigne pas le christianisme aux enfants parce que c'est bien, j'enseigne le christianisme aux enfants parce que c'est vrai. » Et en même temps, c'est très difficile d'affirmer la vérité du christianisme dans un monde pluriel, dans un monde tolérant. Quelque part, c'est choquant de brandir une vérité. Mais cela était déjà le cas dans l'Ancien Testament, les prophètes, le psalmiste, etc., ont affirmé que l'Éternel seul est vrai. Et déjà, à l'époque, cela était choquant, puisque une nation, quand elle rencontrait notre nation, elle disait simplement, ben là, ce sont les dieux de cette nation. Elle ne disait pas, ce sont de faux dieux. Elle disait simplement, ce sont d'autres dieux. Alors que les Israélites, eux, avaient cette audace de dire, c'est pas seulement d'autres dieux, ce sont des faux dieux. Il y a un seul vrai Dieu. Et déjà à l'époque, bien avant nous, il y a 4000 ans de ça, c'était déjà quelque chose de nouveau, de choquant, d'affirmer une seule vérité par rapport à Dieu. Si on va dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir que c'était aussi quelque chose de difficile d'affirmer que Jésus-Christ est Seigneur. Et cela entraînait la persécution parce que le reste des personnes de l'Empire romain affirmaient que César était Seigneur. Et le fait d'affirmer Jésus-Christ Seigneur, c'était s'exposer à la persécution. Quelque part, ce n'est pas nouveau d'éprouver une difficulté face à l'exclusivité de la foi chrétienne. C'est quelque part le combat de tous les croyants du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Alors que Dieu nous donne l'audace et la sagesse pour affirmer la vérité de l'Évangile. Et quelque part, si je ne suis pas convaincu de la vérité, comment je vais faire face à l'opposition dans le témoignage? Pourquoi j'accepterais de faire des sacrifices? Pourquoi j'endurerais des moqueries et des rejets si je n'étais pas sûr que ce soit vrai? Je dois être sûr que cela est vrai pour avoir le courage de témoigner. Alors que Dieu affermisse notre conviction de la vérité de l'Évangile afin d'être des témoins pertinents. Et en même temps que je dis ça, je dis aussi que l'Église est un lieu d'accueil du doute. Pas dans le sens que ce serait une vertu, mais l'Église est ouverte pour cheminer avec les personnes qui doutent, pour les amener à plus en plus de conviction. Et le théologien, mais aussi apologète, c'est-à-dire quelqu'un qui s'efforce de défendre la foi chrétienne, qui s'appelle Alistair McGrath, a écrit un livre très intéressant. Il écrit « Je doute, donc je crois ». Et en fait, dans ce livre, il dit que les doutes sont comme un peu des douleurs de croissance. Quand nous grandissons, nous éprouvons quelques douleurs. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Le doute, quelque part, fait partie de notre croissance spirituelle. Et lorsqu'il est dépassé, il permet de fortifier la foi. Donc, bien sûr, nous devons être convaincus de la vérité de l'Évangile, mais en même temps, si nous sommes en doute, eh bien, c'est pas une excuse pour tout laisser tomber, mais au contraire, venons à l'Église pour être fortifiés dans notre foi, pour poser nos questions et pour être affermis dans la vérité. L'Évangile est vrai. L'Évangile est magnifique. L'Évangile est beau. 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes ont parlé de la grâce qui vous était réservée et ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont vraiment annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. L'Évangile est tellement beau que les anges eux-mêmes désirent y plonger leur regard. L'Évangile est tellement merveilleux que même les anges sont admiratifs devant un tel message. L'Évangile est la plus grande histoire d'amour, celle d'un Dieu qui se donne pour le salut de sa création. Alors que nous allons fêter la nativité dans quelques jours, Laissez-moi vous partager un court passage de saint Augustin, Augustin d'Hippone, concernant la beauté de l'incarnation. Voilà comme il le dit avec ces mots qui sont magnifiques, qui sont poétiques. Il est devenu homme, lui qui a fait l'homme, afin que celui qui règle le cours des astres soit nourri à la mamelle, afin que lui, le pain, connaisse la faim, afin que lui, la source, connaisse la soif, afin que lui, la lumière, connaisse le sommeil, afin que lui, le chemin, connaisse la fatigue de la route, afin que la vie connaisse la mort. Celui qui existait comme fils de Dieu avant tous les siècles, celui qui n'a pas de commencement, a daigné devenir fils de l'homme en ces temps, en ces derniers temps. Celui qui endura toutes ces indignités à notre place n'avait fait aucun mal. Et nous qui étions au bénéfice de tant de bonté de ses mains, nous ne méritions aucun bienfait. Engendré du Père, il n'a pas été créé par le Père. Il a été créé homme dans le sein d'une mère qu'il avait lui-même créée afin de naître en ce monde de celle qui jamais et nulle part n'aurait pu exister sinon par sa puissance. Voilà les merveilles de l'Évangile, ce Dieu créateur qui se fait créature. La beauté de l'Évangile est aussi illustrée par les énormes contrastes que nous trouvons dans la Bible. D'ailleurs, c'est dans ce chant aussi, Amazing Grace, dont certains contrastes ont été repris dans la chanson Grâce infinie qui m'a trouvé. Donc j'étais perdu, je suis trouvé, j'étais aveugle, je vois. Et nous pourrions multiplier comme ça d'immenses contrastes et qui montre la beauté de l'Évangile. Nous étions sous la malédiction, nous sommes sous la bénédiction. Nous étions morts, nous sommes appelés à la vie. Nous étions dans les ténèbres, nous sommes appelés à la lumière. Nous étions un homme naturel et nous devenons un homme spirituel. Nous étions perdus, nous sommes sauvés. Nous étions condamnés, nous sommes justifiés. Nous étions séparés, loin, nous sommes réconciliés. Nous étions enfants de colère, nous devenons enfants de Dieu. Nous étions ignorants, nous avons la connaissance. Nous étions bannis et maintenant nous avons part à sa gloire. Nous étions esclaves et nous sommes libres. Nous étions impurs et nous voilà purs. Nous étions pécheurs et nous sommes transformés en saints. Nous étions fatigués et nous avons trouvé le repos. Nous étions assoiffés et nous sommes devenus source d'eau vive. Nous étions pauvres et nous sommes riches. Nous étions sans force, ennemis et pécheurs et nous sommes réconciliés et sauvés. Quelle merveille, quelle merveille, le message de l'Évangile. Et la beauté de l'Évangile nous donne aussi du zèle et de la confiance pour partager ce message. C'est la meilleure nouvelle qui n'ait jamais retenti sur toute la surface de la terre. Et c'est faire du bien aux autres que de partager la bonne nouvelle. L'Évangile est magnifique, l'Évangile est merveilleux. Pensez aussi à l'espérance chrétienne qui permet de se dire que nous retrouverons les personnes qui s'endorment dans le Seigneur. Ainsi, même dans le plus triste des événements de la vie, nous pouvons trouver une note d'espérance. Et je suis tombé, pas plus tard que hier, sur un chant qui m'a arraché quelques larmes. Et dans ce chant, il est dit que c'est un chant écrit par rapport à l'espérance que nous avons de retrouver les personnes qui ont disparu. Et le refrain dit « Parfois je tombe encore en faisant le deuil de notre séparation, mais le plus beau cadeau est de savoir où tu es avec le Fils de Dieu. » Voilà l'espérance que nous avons si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. C'est tellement beau. L'Évangile est tellement beau, à peine concevable. C'est tellement beau que le philosophe français Luc Ferry, qui n'est pas croyant, explique dans son livre « Apprendre à vivre », traité de philosophie destiné aux jeunes générations, il explique pourquoi il ne croit pas et il écrit ceci « La promesse que nous font les religions pour calmer les angoisses de la mort, à savoir celle d'après laquelle nous sommes immortels et allons retrouver après la mort biologique ce que nous aimons, est, comme on dit,
trop belle pour être vraie. Effectivement, c'est trop beau. Mais c'est vrai, la preuve en est la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est ressuscité comme preuve que la mort a été vaincue et comme preuve de notre propre résurrection. Et en même temps, cette excuse de dire « c'est trop beau pour que ce soit vrai », ça ne tient pas lorsqu'il s'agit de Dieu. Si Dieu avait seulement fait quelque chose ordinaire, on se serait dit « mais il aurait pu faire plus grand, quand même, c'est Dieu ». Et là, il fait quelque chose et puis on dit « mais c'est trop grand ». Vous voyez, c'est un petit peu paradoxal. L'évangile est beau, l'évangile est vrai et l'évangile est puissant. Romains chapitre 1, le verset 16, il est dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit ». L'évangile change des vies. Vous savez que le nombre de protestants évangéliques en France a été multiplié par 10 depuis 1950. L'évangile est puissant. Une église évangélique se crée tous les 10 jours en France, dans ce pays laïque que l'on qualifie de difficile. Eh bien, c'est que l'évangile est encore plus fort que l'esprit français. Dans le monde, on compte que il y avait, dans les années 1960, au niveau mondial, 3% de chrétiens évangéliques. Alors, il y a bien sûr des gens qui sont transformés par la puissance de l'évangile, qui sont en dehors des églises évangéliques, bien entendu. Mais là, je me concentre sur les chiffres des églises évangéliques. Donc, dans le monde, en 1960, il y avait seulement 3% de l'humanité qui se référait du mouvement évangélique. Et aujourd'hui, on en est à plus de 8%, 600 millions d'évangéliques dans le monde. À peu près un chrétien sur quatre est aujourd'hui évangélique dans le monde. Là, au niveau de la population, l'évangile avance, même dans la mission. Alors, dans les années 1960, on disait qu'il y avait à peu près 50% de la population mondiale qui avait été évangélisée. Ça ne veut pas dire qui a répondu favorablement à l'évangile, bien entendu, mais qui avait entendu le message. Et aujourd'hui, des personnes non évangélisées, on en compte seulement, mais encore, 29%. Donc vous voyez, on est passé de 50% de personnes non évangélisées à seulement 30%. Donc la mission progresse. Mais en même temps, ces 30% restent énormes. Parce que si, en pourcentage, la mission a progressé, donc l'évangile est puissant, en valeur absolue, finalement, il y a moins de personnes évangélisées. Je m'explique, parce qu'il y avait 50% de personnes non évangélisées en 1960, mais ça veut sur 6 milliards de personnes. Donc il y avait 3 milliards de personnes non évangélisées. En 2015, là c'était le chiffre de 2015, il y avait 7,2 milliards de personnes sur la Terre. Donc, ces 29% de personnes non évangélisées correspondent donc à 2 milliards de personnes, ce qui était supérieur aux 50% non évangélisés en 1960, qui était de 1,5 milliard. Je me suis trompé tout à l'heure, parce qu'il n'y avait que 3 milliards de personnes en 1960. Donc, finalement, aujourd'hui, alors, en 2017, ça a encore augmenté. Même si en pourcentage, il y a plus de personnes qui sont évangélisées, en nombre de personnes qui ne sont pas évangélisées, il y en a plus aujourd'hui que dans les années 1960. Donc tout cela pour dire que, effectivement, l'évangile est puissant, continue à transformer des vies, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et je prie que parmi nous, nous soyons tous utilisé donc pour faire reculer ces personnes qui ne connaissent pas, ce nombre de personnes qui ne connaissent pas encore l'Évangile. L'Évangile est puissant. Autour de moi, je peux voir des personnes qui, grâce à l'Évangile, ont laissé tomber la drogue, ont été libérées d'esprits mauvais, ont trouvé un sens à la vie, ont trouvé la force dans des moments difficiles, ont trouvé la force de pardonner et d'aimer. Jésus, son enseignement, ses œuvres sont capables de changer des vies. L'Évangile est puissant. L'Évangile est puissant encore aujourd'hui dans notre pays. Le témoignage de Jésus-Christ reste efficace pour transformer des vies. Et cela me motive à témoigner. Ce sera toujours difficile de témoigner, mais cela vaut le coup, parce que ce que Dieu aura décidé de sauver, eh bien, comme l'Évangile est puissant, ils seront sauvés avec certitude. L'Évangile est vrai, l'Évangile est beau, et l'Évangile est puissant. Que nous soyons toujours plus convaincus, plus émerveillés de la beauté, de la vérité et de la puissance de l'Évangile. Et alors, notre témoignage pourrait être pertinent. Mais vous allez me dire, comment être persuadé de la vérité, de la beauté et de la puissance de l'Évangile? Eh bien, j'aimerais vous donner quelques clés, parce que ce qui est triste, c'est que même si nous sommes convaincus de la vérité, de la beauté, de la puissance de l'Évangile, quelque part, si nous n'entretenons pas cette flamme, eh bien, nous pouvons perdre cet enthousiasme, perdre ce zèle, et peut-être même, et ça je pense que c'est le pire qui puisse nous arriver, devenir blasé de l'Évangile. Et je me souviens quand j'étais responsable de mon groupe de jeunes, dans mon église d'origine où j'ai grandi à Colmar, eh bien il y avait des gens, des fois, ils avaient tellement entendu l'Évangile qu'ils finissaient par dire « oui, oui, on connaît », alors que finalement, c'est la plus grande nouvelle qui n'est jamais retenti sur la terre. Alors comment finalement entretenir le fait que cette passion pour l'Évangile, ce zèle, le fait que l'Évangile est vrai, est beau et puissant? Eh bien déjà, souvenons-nous que l'Évangile, ce n'est pas seulement la porte d'entrée de la vie chrétienne, mais c'est ce qui accompagne notre vie chrétienne tous les jours. Nous avons besoin tous les jours de l'Évangile. Ce n'est pas une fois pour toutes, puis après, bon, on s'en déconnecte. Pourquoi c'est tous les jours? Puisque à chaque moment où je m'aperçois que je m'éloigne de Dieu, eh bien, je peux demander pardon, demander, implorer la grâce du Seigneur qui va me l'accorder à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc c'est à chaque moment de la vie, quand je m'aperçois que je m'éloigne du Seigneur, que je peux revenir au Seigneur et que j'ai besoin de l'Évangile. C'est pas seulement une fois pour toutes, c'est à chaque fois que je me rends compte d'un péché et que je peux le confesser. Mais l'Évangile est aussi ce qui me donne la motivation, la force pour progresser dans la sanctification, c'est-à-dire dans le fait de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, de devenir de plus en plus saint dans l'attente de son retour. Tite 2, 11 à 13 dit « La grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Ici, nous voyons que la grâce, c'est ce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est parce que je suis conscient de l'Évangile, parce que je sais que Dieu m'a aimé d'un amour inconditionnel, que je progresse dans la sanctification. C'est ça mon carburant. Nous sommes dépendants de Jésus, de son esprit, à chaque moment de notre vie chrétienne, pour servir selon les dons, pour aimer, pour vivre. Et cela permet d'actualiser l'Évangile. Ce n'est pas seulement à ma conversion que j'ai besoin de l'Évangile, c'est tous les jours. Comment aussi se persuader de la vérité? Eh bien, là je vais parler de ce qui me passionne, j'aime beaucoup l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi chrétienne. Et parfois se replonger dans un sujet permet de se convaincre à nouveau de la vérité de l'Évangile. Il y a quelques semaines, j'ai dû préparer un enseignement sur la résurrection de Jésus-Christ, et le fait de me replonger dans ce thème m'a redonné une totale confiance dans cette vérité historique de la résurrection de Jésus-Christ. Aussi surprenant que cela puisse être, cela s'est vraiment passé dans notre histoire. Les versets de 1 Pierre 3, 15 et 16 nous demandent de nous tenir prêts à répondre à l'espérance si on nous demande. Et donc, pour être prêt, il faut se préparer. Et quelque part, se préparer à répondre aux questions des autres, c'est aussi affermir sa propre foi dans la vérité de l'Évangile. Et cela a son importance, d'être aussi assuré de la vérité de l'Évangile, et pas seulement de sa beauté, même si c'est important, puisque lorsque viendra les difficultés, les avis contraires des personnes d'autres religions, d'autres croyances, même athées, eh bien, il faudra être quelque part fort, armé intellectuellement, bien sûr, pour pouvoir faire face à ces oppositions. Donc, se préparer, c'est important, ça fait aussi partie du travail du chrétien. Comment se persuader de la beauté ? Eh bien, je vous encourage à développer votre vie de piété, votre vie d'attachement au Seigneur, de relation à Dieu. Et peut-être en variant parfois la forme. Des fois, louer le Seigneur d'une autre manière, prier d'une autre manière, se plonger dans des textes qu'on n'a pas l'habitude de lire, ça permet de nous rafraîchir, de nous renouveler dans notre émerveillement par rapport au Seigneur. Pourquoi pas nous replonger dans des textes des historiens du passé, des théologiens du passé. Pourquoi pas faire des fois des prières lues ou des prières chantées. Je pense que pour s'émerveiller à nouveau de l'Évangile, nous pouvons utiliser aussi différentes formes de piété, de relation au Seigneur, du moment bien sûr qu'elles soient centrées sur Jésus-Christ. Varier nos lectures. Mais c'est aussi le partage entre frères qui permet de s'encourager et de voir la beauté de l'Évangile. Par exemple, les séances open mic dans cette église, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet de dire voilà, le Seigneur fait ça. Notamment, c'est puissant, mais c'est vrai. Et puis c'est beau l'œuvre que Dieu fait dans nos cœurs. Donc persuadons-nous de la beauté de l'Évangile. Redécouvrons des formes de piété, de relation à Dieu qui vont nous renouveler dans notre émerveillement par rapport au Seigneur. Parfois, simplement, même lire la Bible dans une autre langue, ça peut nous faire apparaître le texte, d'une manière un peu nouvelle. Si vous lisez l'anglais ou une autre langue, vous lisez un évangile en anglais et « Ah tiens, cette parole que j'avais tellement entendue en français, je la trouve lue en anglais » et elle m'apparaît d'une autre manière, et donc je médite à nouveau les mêmes réalités d'une autre manière, et cela permet d'entretenir la beauté de l'Évangile. Et finalement, comment se persuader de la puissance de l'Évangile ? Comment en être saisi ? Eh bien, je vous invite à avoir un regard large qui dépasse les frontières même de notre Église ou de notre pays, et de voir ce qui se passe au niveau du monde entier. L'Évangile progresse dans le monde entier. C'est toujours la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et une autre manière, eh bien, c'est finalement de mettre en pratique l'Évangile et de voir les fruits de l'Évangile dans votre vie et dans la vie des personnes qui vous entourent. Quelle joie de voir des gens cheminer vers Jésus-Christ et se donner à Jésus-Christ. Cela renforce notre confiance dans le message de l'Évangile. Alors cela ne se passe pas forcément tous les jours, mais nous voyons, quand nous persévérons, qu'il y a des fruits, et cela renforce notre conviction de la puissance de l'Évangile. Alors je vous encourage à vous joindre aussi à des actions de témoignage, mais aussi à témoigner là où vous êtes, avec vos voisins, à les aimer, à les bénir, à les servir, et à leur partager aussi votre foi. Et le temps de Noël est un temps spécial pour pouvoir faire cela avec nos voisins de palier, par exemple. On peut leur offrir une petite boîte de chocolat, puis un petit calendrier chrétien, pourquoi pas, c'est souvent ce qu'on fait à Noël, ou d'autres choses très originales qu'on peut encore inventer pour profiter de ce temps de Noël, offrir un CD de Noël ou je ne sais pas, pour partager notre foi. Et je trouve aussi, je suis personnellement encouragé dans les groupes de découverte. Nous avons un groupe de découverte dans notre église où il y a quelques personnes qui cheminent, et c'est toujours beau de voir des gens s'approcher du Seigneur, découvrir des choses Et ça montre encore une fois la puissance de l'Évangile. L'Évangile se vit, ce n'est pas seulement une théorie, une opinion, une manière de voir le monde, c'est quelque chose qui se vit, qui change la vie. J'aime beaucoup, c'est ma conclusion pour finir, cette parole de l'ange que on peut lire en Luc chapitre 2, alors que nous entrons dans le temps de Noël. « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera source de grande joie pour tout le peuple. » C'est ça l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui apporte la joie. L'Évangile est vrai, l'Évangile est beau et l'Évangile est puissant. Je vous invite à prier. Merci Seigneur parce que l'Évangile est vrai. Un jour, toi notre Dieu, tu es véritablement venu sur la terre pour nous rejoindre, pour te faire connaître à nous, pour porter notre péché, pour en payer la condamnation et pour ressusciter et vaincre la mort. Merci parce qu'un jour tu reviendras avec certitude. Merci parce que l'Évangile est vrai. Merci parce que l'Évangile est beau. L'Évangile est la plus belle nouvelle qui ait jamais retenti sur la terre. C'est un message de contraste qui fait de nous des êtres perdus, des gens qui sont maintenant réconciliés avec toi. Merci pour cette beauté, cette grâce, cette grâce aussi et cette beauté qui se voit dans l'espérance chrétienne. Et merci parce que l'Évangile est puissant, il continue de transformer des vies aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que tu transformes notre vie, que tu viennes y mettre la joie du salut, la joie de te connaître, la persévérance dans les difficultés, l'assurance du salut, la joie de te savoir à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Et que toutes ces vérités s'enracinent de manière plus profonde en nous chaque jour, afin que nous puissions être tes témoins dans le monde qui nous entoure, et particulièrement en cette période de Noël. Donne-nous, Seigneur, la grâce de parler de l'Évangile qui est beau, qui est vrai et qui est puissant autour de nous, à nos voisins, à nos collègues, aux gens de notre famille. C'est vrai que c'est difficile de proclamer une vérité dans notre monde pluraliste, tolérant, parfois relativiste, mais c'est ce que tu nous appelles à faire et c'est ce que tous les disciples de Jésus-Christ ont fait depuis 2000 ans maintenant et même déjà dans l'Ancien Testament. Ils affirmaient la vérité du seul vrai Dieu. Donne-nous, Seigneur, cette force. Donne-nous ta grâce pour vivre tous les jours de manière passionnée de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen.